Nous allons maintenant passer au cas de la France. La France est un État qui a signé absolument tous les textes internationaux, que ce soit la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes, le programme d'action du Caire, de Pékin, etc., etc. Et d'un autre côté, la France est membre de l'Union européenne. Donc on peut se demander, évidemment, dans quelle mesure la loi applique ces différents programmes internationaux, européens. On peut donc se demander quelle est l'effectivité de ces textes qu'elle a signés, c'est-à-dire dans quelle mesure ils sont intégrés de façon logique et cohérente dans son droit et dans sa politique. Hein. Et puis d'un autre côté, quel est leur impact. Donc c'est pour ça que nous allons d'abord voir dans un premier temps l'évolution pour situer un petit peu la France et sa tradition nationale et les changements que celle-ci a connus. Et puis, d'autre part, nous essaierons de voir, eh bien, quels sont aujourd'hui les instruments d'égalité en France et dans quelle mesure ils sont réellement appliqués. Alors, pour étudier les évolutions des politiques d'égalité entre les sexes de la France, hein, je vais m'appuyer principalement sur deux auteurs, Sandrine Dauphin et Réjeanne Sénac. La première a publié L'État et les droits des femmes, au pur, et elle a écrit également avec la seconde Femmes et hommes, pensée d'égalité. Réjeanne Sénac, elle, a publié un livre qui s'appelle Femmes et hommes, des inégalités à l'égalité. Et je vais d'abord vous rappeler quelque chose que vous savez sans doute, mais que les pays des droits de l'homme ont vraiment été ceux de l'homme et pas ceux de la femme, et cela pendant longtemps. Vous savez que le Code civil de 1804 a écrit et organisé un des systèmes d'inégalité entre les sexes, de construction de la hiérarchie, les plus systématiques. Et tout part en fait de l'article 213, selon lequel le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son mari. À partir de là, se décline tout ce que la femme a le droit de faire et surtout tout ce qu'elle a le droit, l'interdiction de faire, à moins qu'elle ait l'autorisation absolue de son mari. Donc il y a des choses d'ailleurs sur lesquelles on ne peut pas retourner en arrière. C'est-à-dire que c'est un principe de droit public, hein, que la femme doit obéissance, que c'est son mari qui gère son budget, y compris son salaire, qu'elle doit, lui doit évidemment des relations sexuelles, qu'il peut décider qu'elle aille voir telle ou telle personne ou pas, et il peut même décider de ses lectures. Donc c'est un principe de subordination totale de la femme à l'homme, qui a été vivement critiqué d'ailleurs dès cette époque-là, et y compris par des auteurs ensuite comme Victor Hugo et comme évidemment de nombreuses féministes. Donc peu à peu, ce système s'est démantelé. Néanmoins, en 1948, à un moment où la France signe la Charte des droits de l'homme, eh bien, le mari est toujours le chef de la famille. Et cela veut dire qu'on reconnaît que la femme peut avoir éventuellement quelque chose à dire sur la famille, mais qu'en cas de désaccord, c'est le mari qui décide. Pourtant, les choses commencent à changer dans les années 50. On pourrait citer d'ailleurs l'œuvre de Simone de Beauvoir, hein, dès 1949, qui explique que la femme est une construction sociale, enfin que son statut est vraiment une construction sociale et quelque chose qui n'est pas lié à la nature. Alors, ce qui se passe plus généralement dans les années 50-60, c'est qu'avec les Trente Glorieuses, le travail des femmes devient vraiment un enjeu économique. À la différence d'autres pays, la fécondité française est correcte, mais il y a un manque de travailleurs et travailleuses, et donc il va y avoir toute une mobilisation des femmes. Et on va voir se développer les associations féminines, notamment professionnelles, donc syndicales, mobilisées autour du travail féminin. Alors ces associations ne se déclarent pas forcément féministes, mais elles font partie de cet espace de la cause des femmes dont Laure Bérény nous a parlé précédemment. Et lorsqu'elles font ces demandes, elles ne se retrouvent pas seulement face à des traditionnalistes religieux, mais aussi, par exemple, face à la CGT, qui réclame la reconnaissance de la fonction maternelle comme fonction sociale, et qui est donc plutôt opposée au travail des femmes. Par exemple, c'est la CGT qui avait obtenu que ce soit le mari qui touche les allocations familiales et non pas la femme, comme en Grande-Bretagne. Donc après, il va y avoir un changement très très net de la CGT sur ces questions-là, mais néanmoins, on voit déjà des oppositions assez nettes. Il va y avoir ensuite la création, en 1965, du comité d'études et liaisons des problèmes du travail féminin, qui est un organe consultatif qui réalise des études au sein du ministère du Travail. Il y a 34 membres et il est dirigé par Marcel Devaux, qui est donc une fémocrate, pourrait-on dire, une femme d'appareil portée par des convictions et qui va jouer un rôle important, même s'il est aujourd'hui quelque peu occulté. Donc on voit un petit peu ce dont on parlait, sur le côté que des femmes qui sont pour la justice sociale en faveur des femmes, sans se définir elles-mêmes forcément comme féministes, vont travailler à garder présente cette exigence, même à une époque où le féminisme n'existe presque plus. Ce féminisme pourtant renaît avec notamment en 1956 la maternité heureuse. Et donc là, vous voyez le titre, c'est pour que les enfants soient heureux, pour que les mères soient heureuses, eh bien il est nécessaire d'accéder à la contraception. Contraception qui est alors interdite en France, alors qu'elle a été autorisée depuis déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne ou en Suède. Et ce sont des femmes et des hommes, souvent des médecins, qui sont confrontés à des femmes qui tentent des avortements dans de très mauvaises conditions, qui sont souvent chargées de famille, qui vivent très difficilement. Donc ces médecins vont prendre conscience du problème social, du fait qu'il y a une injustice, que les femmes de milieu aisé peuvent facilement trouver des endroits où se faire avorter sans danger, alors que d'autres en meurent. Et on va trouver ensuite dans cette association de très nombreuses ouvrières qui vont militer, qui vont consulter, qui vont jouer un rôle important. Par la suite, la maternité heureuse fera partie de la Fédération internationale pour la planification française et deviendra le mouvement français pour le planning familial. Donc à l'époque, c'est peut-être même plus une question, on ne parle pas encore vraiment de féminisme, c'est peut-être plus une question de justice sociale que de mouvement féministe, et néanmoins ça fait bien sûr partie de l'espace de la cause des femmes. Donc on voit à cette époque toute une amélioration de la situation des femmes à la suite de pressions d'un mouvement un peu diffus, avec notamment des juristes qui ne comprennent pas très bien le maintien d'une subordination totale. Et donc ça a commencé avec l'abolition du devoir d'obéissance en 1938, puis en 1935, les femmes obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans autorisation du mari. En 1975, l'adultère est reconnu de la même façon pour les deux sexes, et donc celui de la femme n'est pas plus pénalisé. En 1970, le mari cesse d'être le chef de famille, et puis peu à peu vont être levées les interdictions de la contraception et de l'avortement. Donc on voit qu'entre 1965 et 1975, il y a toute une série de textes qui vont améliorer très notablement la situation des femmes, et cela avant même finalement le développement de ce qu'on a appelé le mouvement de libération des femmes, et qui a marqué très fortement l'univers symbolique et pratique. Donc ce mouvement de libération des femmes, il s'est fait connaître en 1970 avec le dépôt d'une gerbe à plus inconnu que le soldat inconnu, c'est-à-dire sa femme. À l'époque, il y avait très peu, il y avait 10 femmes avec des banderoles et beaucoup plus de policiers à côté d'elle. Il va y avoir dans ce mouvement libération des femmes plusieurs mouvances, une mouvance radicale qui va sectorialiser avec notamment le journal qui s'appelle Le Torchon Brune, dont le titre est très explicite, hein, qui montre bien qu'il s'agit non seulement de la sexualité, de la contraception, d'avortement, mais aussi du travail domestique. Hein. Et ce mouvement radical va souvent s'exprimer par des groupes de conscience, avec l'idée qu'en parlant entre soi, on pourra mieux comprendre ce que l'on vit, que ce que l'on perçoit comme des limites individuelles sont en fait l'effet de contraintes collectives, et on va essayer ensuite de développer cette conscience auprès des autres. Et un des premiers mouvements, c'est de pouvoir réfléchir par soi-même, entre soi. Il y aura aussi un mouvement lutte des classes, qui à l'époque est assez proche de la Ligue communiste révolutionnaire, donc trotskiste, et qui va publier le cahier du féminisme, qui a été republié en ouvrage récemment. Puis il y aura évidemment un mouvement mixte, au contraire, le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, qui va pratiquer des mouvements illégaux pour obtenir la libéralisation de l'avortement, ce qui sera fait en 1975. Il y a aussi un mouvement des Queen Rouge, hein, des femmes qui, des lesbiennes, qui d'abord militent au sein du Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui s'y sentent marginalisées et qui vont se retrouver entre elles, dans un cadre souvent de militantisme assez radical. On trouve aussi le mouvement psychanalysé politique, autour d'Antoinette Fouque, et qui dispose de moyens relativement importants et qui va pouvoir notamment lancer les éditions des femmes et un hebdomadaire qui va se retrouver dans n'importe quel village de France. Et ce mouvement est plus, comme son nom l'indique, est plus veut essayer de concilier l'apport de la psychanalyse, notamment lacanienne, et une approche politique de transformation sociale. Alors ce mouvement va souvent être assez en opposition avec les autres tendances parce que il est pensé souvent comme étant plutôt différentialiste. Hein. Le livre d'Antoinette Fou qui s'appelle « Il y a deux sexes » montre bien qu'elle considère que la bisexuation de l'espèce humaine a des conséquences psychologiques, symboliques, absolument universelles et qui ne relèvent pas seulement d'une construction sociale. Il y a aussi un mouvement immigré de femmes, notamment le mouvement des femmes noires, hein, la coordination des femmes noires ou des femmes maghrébines qui vont revendiquer sur leurs propres besoins et notamment contre le fait d'avoir un statut déterminé à celui dépendant de celui de leur mari. Alors ces groupes féministes sont souvent occultés alors qu'ils ont été étudiés par Claudie Lecellier et leur présence a été tout à fait active. Alors, si on réfléchit à l'ensemble de ces revendications, on peut dire que c'est souvent des revendications assez libertaires, hein, c'est-à-dire avec une approche relativement individualiste, hein, demandant à ce que les femmes puissent décider par elles-mêmes, contre les violences, et notamment contre le viol. Hein, il y aura le lancement de marches de nuit sur le thème « Reprenons la nuit, nous devons avoir le droit de nous promener sans être ennuyés. » Et c'est là où les premières lois vont par la suite, même si le mouvement n'était pas forcément porteur de revendications législatives, néanmoins il va être entendu en ce sens. Et bon, ça ce sont les conséquences de ce mouvement, elles ont été étudiées notamment par Janine Mossus-Lavaux sur les lois de l'amour, les lois donc contre le viol, pour la contraception et l'avortement, pour aussi contre la pénalisation de l'homosexualité et contre sa stigmatisation. Donc tout ce qui permet de vivre en fait sa vie privée sans avoir de contraintes extérieures. Alors ce mouvement, il est relativement peu nombreux, hein, les femmes qui y participent sont relativement peu nombreuses, mais néanmoins il aura une importance symbolique très forte, hein, et c'est sans doute une des causes de la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine. La France est alors le premier pays au monde qui en a un, donc c'est avant la conférence mondiale de 1975 qui prône justement le développement d'institutions d'égalité des sexes. C'est Giscard d'Estaing qui décide de nommer, parce qu'il cherche à avoir une image plus moderne, qui va nommer des femmes au gouvernement. Donc on passe de 3% à 10%, ce n'est pas beaucoup, mais enfin en même temps c'est le nombre de femmes triple. Et il va notamment nommer Françoise Giroux, qui était la co-directrice de l'Express, et une femme assez connue, donc comme secrétaire d'État à la condition féminine. Alors c'est un ministère, hein, un secrétariat d'État qui est largement symbolique, hein, puisqu'il n'y a pas encore d'administration. Il est au 22e rang au niveau ministériel. Il ne va piloter aucune des grandes réformes de l'époque, c'est-à-dire l'avortement qui va être piloté par Simone Veil, ministre de la Santé, et le divorce par consentement mutuel qui, lui, va être piloté par le ministère de la Justice. Les féministes n'apprécient pas trop ce secrétariat d'État, hein, qui leur paraît un espèce de gadget sans aucun moyen et qui sert plutôt à faire taire les femmes qu'autre chose. Pourtant, il a eu une certaine action, notamment avec les 100 mesures pour les femmes, qui consistent en un nettoyage législatif des mesures législatives discriminatoires. Alors ce sont des mesures, hein, qui indiquent où était un petit peu l'état de la France en 1974. Donc à l'époque, les femmes et les hommes concouraient à l'agrégation sur des concours différents. Il y avait certaines professions qui étaient interdites d'accès aux femmes à la fonction publique. On pouvait licencier une femme sur le motif qu'elle était enceinte, hein, et les reculs d'âge pour les emplois publics étaient accordés aux mères mariées, mais pas aux mères célibataires et divorcées. Donc on voit que c'était des mesures à la fois contre les femmes, mais aussi contre l'ordre moral finalement. On considérait que une femme divorcée n'était pas quelqu'un de bien. Françoise Giroux va éliminer toutes ces mesures, hein, et donc toiletter un petit peu notre code du travail, notre code civil, etc. Elle va aussi organiser un recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement public dont on sait combien il fonctionne mal encore aujourd'hui, et elle va créer pour la première fois des délégations régionales à l'égalité entre les sexes, mais qui à l'époque fonctionnent sur une base volontaire. Après Françoise Giroux, il y a encore des secrétaires d'État avec des titres divers qui mènent une action avec toujours aussi peu de moyens. Tout change avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980, où Yvette Roudy va être nommée ministre des droits de la femme. Donc pour la première fois, il y a un ministère spécifique, ce qui représente une institutionnalisation donc de la question de la cause des femmes. Alors ce ministère a un budget qui n'est pas négligeable, puisqu'il représente 1% du budget global de l'État. Et puis pour la première fois, on a la création d'un service spécifique en 1984. Alors ce service a 4 divisions. On retrouve la question qui a toujours été fondamentale pour la France dans la façon française de voir la question des femmes, donc une division consacrée à la formation, l'emploi et l'égalité professionnelle. On trouve aussi une division consacrée aux droits propres et au développement de l'autonomie des femmes. Et vous vous rappelez que là, c'est plutôt la perspective finalement onusienne, celle de la CEDEF, hein, qui a été signée, qui a été créée en 1979. Hein. Il y a aussi une division des associations et de la coordination de l'action régionale, de l'information et de la communication. Ce sera un axe fort de la politique de Roudy. Et il y a enfin une administration générale de ce secrétariat, comme dans toute administration. Alors, une particularité de ce service, c'est qu'il y a peu de fonctionnaires. La moitié des employés sont des contractuels ou des vacataires, ce qui est donc énorme pour une administration. Et en région, la situation est encore pire, puisque sur 154 personnes, seules 6 sont des titulaires. Donc, un fonctionnaire qui travaille beaucoup avec des employés précaires. Donc, on peut dire qu'il y a un renforcement institutionnel, mais celui-ci est à la marge de l'État, puisqu'il y a peu de fonctionnaires dans le service. Il y a un renforcement des centres d'information sur les droits des femmes, qui ont la particularité d'être des associations au service de la cause des droits des femmes, donc des associations qui ont une mission de fonction publique. Il y a la création du Centre national des droits des femmes qui permet de regrouper un peu les informations et du Conseil supérieur d'égalité professionnelle. Et le Centre du travail féminin dont on a parlé tout à l'heure va être intégré dans ce service mais de façon assez difficile. Alors une des difficultés que rencontre Yvette Roudy, c'est que en 1984-85, face à la situation désastreuse du chômage, le gouvernement va prendre un tournant nataliste et familial et va créer des allocations parentales d'éducation qui permettent à des femmes d'arrêter de travailler 3 ans lorsqu'elles ont un enfant et qui va se traduire en fait par un accroissement des difficultés professionnelles des femmes. Et là, on retrouve la distinction qui a été faite précédemment entre les besoins pratiques des femmes. C'est vrai que les femmes ont souvent, surtout lorsqu'elles ont des petits salaires, elles ont besoin de ce temps pour s'occuper de leurs enfants. Pour elles, les crèches, soit il n'y en a pas, soit c'est trop cher, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui va complètement contre les intérêts stratégiques d'autonomisation des femmes, d'égalité entre les sexes, puisqu'après, il est souvent difficile de retrouver un emploi où il est parfois déqualifié, ou il crée de toute façon une différenciation entre l'emploi féminin et l'emploi masculin. D'autre part, toujours à cause de cette crise de l'emploi, on assiste à un développement du travail à temps partiel, alors que jusqu'à présent, les femmes françaises se caractérisaient par le fait d'avoir un emploi, un taux d'activité important et avec très peu de travail à temps partiel. C'est le moment où celui-ci explose. Et bientôt, il va retrouver le niveau d'autres pays comme l'Angleterre. Alors tout ça a fait qu'on a critiqué ce ministère pour être un ministère alibi, aussi parce qu'il était surtout basé sur des mesures spécifiques qui visaient à l'amélioration de telle ou telle catégorie de femmes, qu'il était surtout intéressé par la question de la formation et du changement culturel. Mais on ne peut pas quand même manquer de souligner l'importance pour l'égalité professionnelle de la loi Roudy, qui va être une loi qui va permettre des plans d'égalité professionnelle et une aide financière aux entreprises qui remplissent les conditions. C'est cette loi qui va créer le rapport de situation comparée, qui est actuellement menacé et qui permettait de connaître la situation précise d'une entreprise. Alors par la suite, lorsque la droite revient au pouvoir, il va y avoir une régression importante. Déjà, il n'y a plus de ministère des droits des femmes, une délégation interministérielle avec une régression budgétaire très importante, puisque le budget est coupé de 35%. Et puis, on promeut la place de la mère de famille dans la société. Voilà, c'est quand même un changement assez radical par rapport à la promotion du travail féminin. Ensuite, on aura différents secrétariats d'État. Et donc, vous voyez que selon le titre qui est donné, délégation, secrétariat d'État, ministère, on a des poids différents dans la hiérarchie des ministères de la question de l'égalité. Elle est au plus bas lorsqu'il s'agit de délégation, elle remonte un peu lorsqu'il y a un secrétariat d'État, et évidemment, le meilleur, c'est le statut de ministère de plein droit. Donc, vous voyez qu'en plus, non seulement il y a cette diversité au niveau des statuts de l'égalité au sein des ministères, mais en plus, il y a aussi des changements dans les titres. En 1988, on parle des droits des femmes et de la vie quotidienne de la consommation. Donc on situe la question des femmes complètement dans la famille. À d'autres moments, on parle de conditions féminines. Mot qui est très dénigré par les féministes, hein, parce qu'elles considèrent que ça a un aspect assez statique. Une condition, c'est quelque chose dont on ne change pas, c'est quelque chose qui vous colle un peu à la peau, ce n'est pas du tout dynamique. Par contre, en 1998, on va retrouver une délégation aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle, donc avec toujours cette emphase sur la question de l'égalité professionnelle, qui est assez spécifique de la France. Et vous vous rappelez d'ailleurs que lorsqu'on regarde toutes les législations en faveur de l'égalité, c'est celle sur le droit du travail qui ressort pour la France. Alors le grand changement va se traduire en 1998 avec l'adoption par la France d'une gender mainstreaming. Donc vous vous rappelez, celui-ci avait été impulsé en 1995 par la Conférence mondiale de Pékin. Il a été adopté par l'Union européenne en 1997 et il est accepté en France, donc à partir de 1998, un moment où Geneviève Fraisse est nommée déléguée aux droits des femmes. Alors, ce gender mainstreaming prend plusieurs formes. D'abord, le premier projet, c'est d'encourager une plus grande diffusion des statistiques hommes-femmes. Et ça, c'était aussi une demande, une exigence du programme d'action de Pékin. La première chose à faire, c'est savoir où en sont les femmes. Après, on pourra améliorer et vérifier quels sont les changements. Donc, il va y avoir à partir de ce moment une publication qui a été annuelle pendant un moment, puisqu'il n'est plus de l'INSEE, regard sur la parité. Et puis, il va y avoir aussi la question du suivi de l'orientation scolaire, hein, qui prend une forme assez exigeante. On va aussi créer des formations, notamment par le service des droits des femmes. Et puis finalement, le gender mainstreaming, donc il est supposé se diffuser à travers tous les autres ministères, mais il n'est presque pas mentionné dans les textes des autres ministères, comme a pu le démontrer Sandrine Dauphin. Donc c'est un gender mainstreaming, il s'applique finalement seulement au service des droits des femmes, ce qui est assez paradoxal. Néanmoins, petit bémol sur ce que je viens de dire, on voit dans le jaune budgétaire, hein, c'est-à-dire le moment où l'État récapitule toutes ses dépenses, on voit apparaître en 2001 un récapitulatif des crédits consacrés par l'État à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc là aussi, une exigence de Pékin, faire des budgets sexo-spécifiques, hein. Alors on se rend compte que ce programme donne près de 80%, 7% de ses crédits à des associations, à 1273 associations. Du coup, la Cour des comptes va critiquer beaucoup ce service des droits des femmes en considérant qu'il s'agit d'un saupoudrage, de plus quelque peu opaque. Et en même temps, la Cour des comptes reconnaît que c'est absolument essentiel que ces associations, notamment toutes les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, exercent des fonctions d'ordre public, des fonctions qui servent à toutes. C'est le moment, à la fin des années 90, où apparaît une nouvelle revendication, celle de parité politique. Alors c'est une revendication qui a notamment été lancée par les femmes appartenant à des mouvements politiques, et notamment par Françoise Gaspard, députée du Parti Socialiste, qui a été très longtemps la représentante de la France à la CEDEF, hein, et qui s'est insurgée contre le traitement fait par les partis même de gauche aux femmes, ou qui ne reconnaissaient jamais leurs qualifications pour postuler à des postes de députés. Et évidemment, Françoise Gaspard était particulièrement bienvenue pour en parler, puisque elle-même avait été élue de façon très brillante contre le Front National. Et donc, elle va créer l'Observatoire de la parité. Et cette revendication va être soutenue par plus de 100 associations. Même si il y a toute une discussion autour d'elle, puisqu'une partie du mouvement féministe considère qu'elle conduit finalement à essentialiser les femmes, à faire comme si c'était une catégorie en soi, alors qu'une autre partie considère qu'il n'y a pas d'autre solution pour dépasser le blocage dans lequel on est, puisque la part des femmes reste à moins de 10% de femmes députées, malgré l'obtention du droit de vote en 1945. Donc, cette nouvelle revendication va être reconnue avec une loi sur la parité, mais qui va être un relatif échec, parce qu'il est possible aux partis qui ne veulent pas mettre des femmes en bonne position de payer une amende. Et beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de le faire, préfèrent payer une amende que de mettre des femmes à des postes éligibles. Seuls les petits partis, qu'ils soient d'extrême gauche ou écologistes, vont finalement faire accepter la parité. Et puis cette notion de parité, elle devient plus large que simplement la parité électorale. C'est aussi la parité dans la fonction publique, avec la discussion aussi de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. On va donc trouver, entre 2002 et 2005, un ministre à la parité et à l'égalité professionnelle. Donc il y a cette notion de parité et d'égalité. Alors qu'à partir de 2006, ça sera à nouveau un ministère délégué de la cohésion, donc plus un ministère en propre, mais un ministère délégué, et ensuite de la cohésion sociale et de la parité. La parité devient le deuxième axe, et non plus le premier, et l'égalité professionnelle disparaît. La situation est encore pire sous la présidence Sarkozy, puisque la Valérie Létard devient chargée, donc non plus délégué ou secrétaire d'État ou ministère, mais chargé de la solidarité, et elle s'occupe des personnes âgées, des handicapés, des droits des femmes, bref, de tous les défavorisés, donc qui sont mis un peu dans le même sac. Hein. Et son principal axe d'intervention, sans que ça soit du coup très étonnant, soit les violences, donc ce n'est plus l'égalité professionnelle, mais c'est les violences. Et donc c'est évidemment très important de lutter contre les violences, mais on voit bien que ça ne suffit pas à faire une politique d'égalité. Il s'agit alors là de parer au plus pressé, au plus énorme, et non pas d'aller à la source de ce qui peut provoquer ces situations. Donc les violences faites aux femmes deviennent une grande cause nationale. Il faut souligner qu'elle n'a aucun moyen spécifique qui lui sont attribués, et que sa principale organisation sera une campagne à la fois de photographie et de dessin, de communication et des vidéos. Tout semble changer lorsqu'arrive avec l'élection à la présidence de François Hollande, d'un gouvernement paritaire, le gouvernement Hérault, qui s'engage pour l'égalité. Donc pour la première fois, on a autant d'hommes que de femmes au gouvernement. Et est créé tout de suite un ministère des droits des femmes. Donc pour la deuxième fois, il y a un ministère pour les droits des femmes. Et là, on ne parle plus des droits de la femme, ce qui évidemment fait toujours un peu rire. La femme, comme si la femme était un être unique, mais droit des femmes. Comme si les femmes étaient toutes pareilles, finalement, quelque part. Donc, on peut dire la femme. Donc, ministère des droits des femmes. Et ce n'est pas une revendication qui est tombée au hasard. C'est aussi qu'il y avait une demande en ce sens par les associations féministes, mais aussi par de nombreuses personnes, puisque lors d'un sondage qui avait été réalisé, 69% des femmes s'étaient déclarées favorables au droit à ce ministère, donc une très large majorité. Donc ce ministère des droits des femmes va développer tout un programme dont l'idée va être qu'il faut arriver à une troisième génération de droits des femmes, une société de l'égalité réelle, L'idée générale, c'est les femmes ont finalement presque tous les droits. Hein. On verra quand même qu'il y en a quelques-uns qui restent encore à réaliser. Mais l'essentiel, c'est que ces droits deviennent effectifs, qu'il y ait les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'une société d'égalité réelle. Pour commencer, il est largement publicisé que la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, va sensibiliser les ministres aux inégalités entre les femmes et les hommes. Donc vous avez là une séance où elle explique ce qui ne va pas et ce qui pourrait aller. Et donc c'est très important puisqu'il s'agit bref d'une sensibilisation au plus haut niveau. On avait vu que c'était quelque chose qui était recommandé par l'Union européenne depuis déjà une dizaine d'années et qui, semblerait-il, avait été assez peu fait et qui est pourtant assez nécessaire. Hein. Comme vous allez pouvoir le voir avec ces deux affiches du ministère de l'Éducation nationale qui veut recruter des enseignants et qui donc fait une campagne d'affiches où il est expliqué que Laura, qui est en train de lire, donc dans une situation assez inconfortable dans sa cuisine, Laura, dit-on, a trouvé le poste de ses rêves. Elle est habillée en rose, d'ailleurs, en rose pâle. Quant à Julien, qui lui est assis plus normalement sur une chaise devant un ordinateur et qui a une chemise bleue, il est écrit que Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Donc nous avons d'un côté la rêveuse, mais qui quand même est dans sa cuisine, et puis d'un autre côté l'ambitieux qui, lui, plus logiquement, est devant son ordinateur. Donc bonjour les clichés. Alors le deuxième gouvernement Valls sera aussi paritaire, hein, comme nous pouvons le voir, et le graphique montre ici, l'évolution de la parité gouvernementale depuis 1997, hein, on peut voir que celle-ci a connu des hauts et des bas, qu'elle est passée globalement de 12% à 47%, et qu'à part pour la période Sarkozy, eh bien, elle a été l'augmentation était relativement, enfin, ça a stationné pendant trois gouvernements, ensuite ça a augmenté, puis c'est devenu paritaire. Néanmoins, le ministère des Droits des Femmes aura vécu peu de temps, puisqu'il est remplacé lors du deuxième gouvernement Valls par un secrétariat d'État chargé des droits des femmes, qui est donc Pascal Boitard. Donc on voit une perte quand même d'importance de cette question. Aussi bien le ministère des Droits des Femmes que le secrétariat d'État ont comme principaux thèmes d'action l'égalité professionnelle, bon toujours elle, le droit à disposer de son corps qui apparaît ici clairement et il y aura tout de suite des mesures visant à rembourser la contraception ou la pilule du lendemain pour les ou l'avortement pour les jeunes filles, puis plus tard pour toutes. La question de la parité, la lutte contre les violences, puisque celle-ci malheureusement ne diminue pas, et aussi la question de l'éducation et de la lutte contre les stéréotypes. Donc quelle est la situation aujourd'hui? En parler, ça veut dire évoquer son contexte, celui d'un renouveau du mouvement féministe. Mais il faut aussi parler des structures en place, hein, le résultat de toute cette longue histoire que je viens de raconter. Dans le féminisme actuellement, il y a le Collectif National pour les Droits des Femmes, qui a été créé dans les années 1990, mais qui reste actif et qui regroupe de nombreuses associations. Il y a, de façon plus nouvelle, hein, des femmes extrêmement médiatisées, dont on a tendance... On parle beaucoup plus d'elles que des autres formes de mouvements féministes, avec notamment les Ukrainiennes de Femen. Il y a aussi évidemment aujourd'hui des Françaises, et parce qu'elles posent nues, on a tendance à les voir plus fréquemment dans les pages d'actualité que d'autres mouvements féministes. Mais il y a toujours cette question d'égalité des salaires qui est portée par des syndicalistes et par différents mouvements. Il y a aussi toujours la lutte contre le viol, avec des marches féministes pour récupérer la nuit. Et puis, de façon plus nouvelle, il y a eu le mouvement La Barbe, qui critique, qui va dans tous les lieux où il y a une concentration d'hommes à des postes de pouvoir, pour s'afficher, pour dire, bon, ben, si ce qu'il faut, c'est avoir une barbe, et nous, on vient et avec notre barbe et on intervient. Et donc, elles sont venues comme ça, à des congrès de l'UMP, au Festival de Cannes, enfin, à différents endroits, pour dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas de femmes? Pourquoi ne donnez-vous jamais la palme à une femme? Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes parmi les directeurs de l'information, etc. Donc elle porte cette question de la présence féminine dans différents lieux. Il y a eu aussi donc la création d'Oser le féminisme, qui rappelle tous les principes du féministe, ou des associations d'autres associations féministes. Bref, il y a un mouvement qui est un peu caché peut-être par des représentations plus médiatiques, mais qui reste très présent. Alors, si on regarde les structures en place aujourd'hui, le service des droits des femmes et l'égalité compte 230 agents, dont 50 en service central, 180 dans les régions et départements, et ils se donnent comme mission la question des droits personnels et sociaux et la question de la vie professionnelle. Alors, ses rôles, c'est de mettre en œuvre la politique gouvernementale pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, soutenir les associations et les ONG à travers des projets, c'est-à-dire que les financements ne sont pas pérennes, il faut à chaque fois les justifier, organiser le comité interministériel responsable des droits des femmes et diriger et coordonner un réseau de délégués régional et départemental. Outre le service central, ce qui fait vivre, et de façon même essentielle, l'action en faveur de l'égalité, ce sont les délégations régionales ou départementales aux droits des femmes et à l'égalité. Alors, les délégations régionales aux droits des femmes et à l'égalité, il y en a une par région, soit 22 en France, plus une par région ultramarine, donc Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a aussi les délégations départementales aux droits des femmes et à l'égalité. Là, il y en a une par département, soit 96 en France et 4 outre-mer. Ces délégations distribuent des financements, organisent des actions, notamment autour du 8 mars et autour de novembre, sur la question des violences. Elles sont une forme très concrète de l'action en faveur de l'égalité et de leur dynamisme dépend beaucoup la visibilité et l'importance de celle-ci. Il y a beaucoup de résistance à ce programme d'égalité envers les sexes. Récemment, on a dit que ces résistances prenaient racine dans des stéréotypes. Des stéréotypes, là, vous avez une publicité pour des bodys pour enfants, où vous voyez tout de suite, évidemment, qu'est-ce que c'est que des stéréotypes. La fille est jolie, coquette, et le garçon est fort, vaillant, déterminé, rusé. Donc, du côté de la fille, c'est uniquement du côté physique, et de la joliesse, et du côté du garçon, ce sont plutôt des qualités morales qui sont mises en avant. C'est à la suite de ce genre d'affiches, mais aussi autour de toutes les réflexions qui ont été faites, notamment par par Durubella autour de la question de l'égalité, a été mis en avant ce programme qui devait s'appeler les ABC de l'égalité, qui a fonctionné sur la base du volontariat. 600 classes ont été volontaires entre Toussaint 2013 et mars 2014, et une généralisation était prévue en septembre 1914. Il s'agissait de faire réfléchir aussi bien les maîtresses que les enfants à cette question des stéréotypes et du fait que parfois ça nous empêchait de faire ce qu'on avait vraiment envie de faire, qu'un petit garçon peut avoir envie de promener une poussette et que finalement c'est une préparation à son rôle de père et qu'une petite fille peut avoir envie d'apprendre l'électricité puisque de toute façon c'est toujours utile. Néanmoins, ces actions relativement limitées ont donné lieu à toute une panique morale largement instrumentalisée qui a conduit à même une journée de retrait des écoles qui a été proposée par des parents qui prétendaient qu'on apprenait aux enfants à se masturber en classe ou on les incitait à vouloir changer de sexe. Et cela a donc conduit à la fois à énormément de désinformation et aussi à un développement d'un nouveau mouvement souhaite finalement revenir à des modes de relations entre les sexes plus traditionnels, tout en s'appuyant sur tout un répertoire d'actions relevait justement plutôt du féminisme ou des autres mouvements sociaux. Donc on a vu en référence aux femmes ukrainiennes des hommes qui aussi montraient leur torse nu, en expliquant que voulait protéger les enfants. Évidemment, c'est un thème qui paraît très porteur. Mais eux, à la différence des femmes, manifestent le visage couvert. Cela dit, ce visage couvert, évidemment, ça renvoie aussi à autre chose. Ça renvoie aux manifestations des Occupy de toutes les personnes qui ont protesté contre l'emprise de la financiarisation. Donc de même, on a vu des veilleurs de la famille en faveur du maintien d'une famille traditionnelle qui reprenaient là les actions qui avaient été menées par les chercheurs en lutte contre les restrictions budgétaires et la mise à sac de l'université au nom de la lutte au nom d'une soi-disant autonomie. Ils ont repris ils faisaient des veilles et qu'ils marchaient la nuit ou qu'ils faisaient des veilles, ils ont repris aussi ces actions. Donc un répertoire d'actions très moderne pour une revendication finalement de retour à l'ordre des sexes traditionnels. Donc que peut-on conclure sur cette politique d'égalité entre les sexes en France hein? D'abord, on peut dire que cette politique est éminemment variable et qu'elle dépend beaucoup de circonstances politiques. Néanmoins, il y a une certaine marginalisation et on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment acquis le statut de politique prioritaire, ni que le gender mainstreaming ait permis d'irriguer toutes les instances de l'État. On passe en réalité de passages où il y a un oubli, une disparition presque des structures qui deviennent des petites délégations, à d'autres où il y a une présence médiatique plus forte sans que les moyens suivent toujours. Il est tout à fait notable que les services des droits des femmes, par exemple, soient largement peuplés de contractuels et non de fonctionnaires, c'est tout à fait significatif du statut qui leur est attribué. De même que les centres d'information sur les droits des femmes et de la famille soient des associations et non pas des parties de l'appareil d'État. On peut aussi voir qu'il y a eu une certaine normalisation au sens où la question de l'égalité entre les sexes, si elle est apparue à un moment prioritaire ou nécessitant une action peut-être centrale, a été réintroduite, repensée en termes de diversité, ce qui lui a fait perdre un petit peu de son mordant. Et puis ensuite, en termes de parité. Et donc, dans la notion de parité, il y a ce fait que il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, donc ça renvoie un peu au concept de mixité, sans que l'on sache toujours, ben, du coup, si la mixité ou la parité soit équivalente à l'égalité. Ce caractère un peu variable de la politique, comment s'explique-t-il hein? Ben, d'une part, il y a une importance du contexte économique. Évidemment, on considère toujours que lorsque la France va bien, on a peut-être assez d'argent pour une politique un petit peu d'égalité entre les sexes. Et puis, lorsque il y a la crise économique, on considère qu'il faudrait un peu la mettre au rancard, que ça ne devient pas la priorité. Évidemment, en faisant ça, on oublie que les femmes sont la catégorie la plus pauvre de la population, que ce soit les femmes âgées ou les femmes chefs de famille monoparentales. Deuxième point, la couleur politique du gouvernement est extrêmement importante. On a vu que lorsque un parti de droite est au pouvoir, il a tendance à plutôt s'intéresser à la famille et moins aux femmes, alors que lorsque des partis de gauche ont été au pouvoir, ils ont au moins les premières années mis en avant un ministère du droit des femmes et une volonté d'égalité. Et celle-ci a percuté souvent avec d'autres intérêts et souvent on a alors plutôt abandonné la question de l'égalité, et cela encore peut-être plus franchement lors du premier gouvernement de gauche. Il y a aussi la question des mobilisations qui sont très importantes lorsque les femmes manifestent, lorsque dans l'espace public, lorsqu'elles revendiquent, eh bien on voit souvent des améliorations, non pas forcément de leur situation, mais au moins des réponses politiques qui ne sont pas forcément en réponse directe à leurs revendications, mais qui néanmoins sont une reconnaissance de la cause des femmes. Alors, peut-on voir un impact des textes internationaux et européens alors que la France les a tous ratifiés, alors qu'elle est partie prenante de l'Union européenne et un membre éminent de l'Union européenne? En partie, on a pu voir effectivement que la France a adopté le gender mainstreaming comme politique officielle, cela peu de temps après qu'elle ait été d'abord acceptée par l'ONU au moment du programme mondial d'action du Caire, soit et ensuite par l'Union européenne 2 ans plus tard. Et 2 ans encore plus tard, bien c'est la France qui l'accepte sous un gouvernement de gauche. Néanmoins, d'autres textes mettent beaucoup plus longtemps à être acceptés. On peut prendre l'exemple de la transmission du nom de la mère à l'enfant. Ce texte, ce fait est inclus dans la Convention contre les discriminations faites aux femmes. Plusieurs fois, la France a subi des réprimandes de l'Union européenne à ce sujet. Il a fallu néanmoins attendre il y a à peine 2 ans pour que, enfin, ce soit reconnu. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la France avait accepté que la mère puisse transmettre son nom si le père était d'accord, et là, elle a enfin accepté que la mère pouvait de toute façon l'accepter. Donc on voit que le legs du patriarcat est vraiment très lent à éradiquer en France, et à vrai dire qu'il en reste encore beaucoup de choses dans les pratiques.